Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Eh bien, en écho à la fête de la musique, après le jazz, nous allons voyager dans ce que fut la vie d'un pianiste de formation, mais aussi arrangeur et chef d'orchestre. Il a passé sa classe de terminale avec Serge Gainsbourg et le copain d'Henri Salvador et Quincy Jones travaille chez Mimi Pinson à la Libération en 1945, puis devient en 1954 le musicien attitré de Gilles Margaritis. En 1960, il écrit une pièce d'une douzaine de minutes intitulée « Concerto pour chamarande » pour une soirée privée organisée par le promoteur de l'architecte de Le Corbusier au château de Chamarande, avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Mais ces indices, je le sens bien, ne suffisent pas si je n'ajoute pas l'inventaire ou le petit bout de la queue du chat qui vous électrise.
Vous auriez pu me parler également de la confiture puisque vous nous mettez sur la piste des frères Jacques.
Oui Hervé, notre musicien est le cinquième frère Jacques, c'est Hubert de Gex, auquel Bruno Lorenzi consacre ce Sur les docks.
On peut fumer dans votre taxi ?
Ouais, pas le cigare.
Ah non, la pipe. La pipe. Vous connaissez les frères Jacques ?
Frères Jacques. C'est pas des mecs qui font de la politique, les frères Jacques ?
Pas tout à fait, non.
Moi, c'est des marrants, ça. Pourquoi vous demandez ça ? Vous les connaissez, vous, non ?
C'est un drôle, ça.
Ah oui, ils sont vachement marrants, ces mecs-là, là. Ils sont vachement habillés, d'une façon... Les mecs, qui portent toujours des collants, là. Ils sont vachement marrants, ils ont pas intérêt à bouffer beaucoup, ces mecs-là.
Hubert de Gex, le cinquième frère Jacques. Un documentaire de Bruno Lorenzi et Vincent Deck.
Hubert de Gex, pianiste et trésorier.
Et compositeur.
Oui.
Oui, et quel compositeur ?
Arrangeur.
Il a fallu le forcer un petit peu, mais il fait des chansons délicieuses.
C'est ça, et vous avez du talent, Hubert ?
Non, pas du tout.
Si,
c'est
beaucoup,
si.
Beaucoup.
Allez, fais le
mot.
Mais
non,
mais
il n'osera pas le dire, il faut le faire.
Mais moi, je
ne
le pense pas, c'est pour ça que je dis non.
C'est trop mignon. Hubert, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas monter sur scène avec les frères Jacques ? Pianiste, est-ce que ça suffit ?
Vous voulez dire d'aller faire le guignol avec eux ?
En collant, oui.
Surtout qu'il a une voix, il a une voix excellente. Et de chanter quelque chose pour eux.
Pour ces messieurs dames.
Pour ces messieurs dames.
Allez,
allez, allez. Chose complètement en dehors de mon répertoire.
Allez,
allez, allez.
Mais entre nous, alors.
Oui, entre
nous.
Bien sûr.
De la complicité, de l'unité, de l'humour. Depuis 1946, les frères Jacques connaissent un succès grandissant et retentissant. Leurs textes, l'harmonie de leur voix, leurs costumes, leur chorégraphie millimétrée contribuent alors à la naissance d'un nouveau genre musical très apprécié sur la scène française et internationale. En 1966, Hubert de Gex croise presque par hasard leur trajectoire pour ne plus la quitter. Dès le début des années 50, ce chef d'orchestre et arrangeur a déjà contribué à de nombreuses gloires de l'époque. Il n'est donc pas étonnant qu'il fût choisi pour accompagner les grandes vedettes qu'étaient les frères Jacques. 37 années durant, ils ont transformé et renouvelé à leur façon la chanson française et ont indéniablement enrichi notre patrimoine culturel. Hubert de Gex a été acteur de ce succès. Pianiste à la carrière fascinante, il a accompagné la formation légendaire pendant toute la deuxième moitié de leur carrière. Aujourd'hui, après plus de 60 ans de métier, Hubert de Gex continue son activité de musicien. Par son prisme, nous avons la chance de revisiter l'aventure de grandes vedettes de la chanson française et de mieux comprendre pourquoi et comment la carrière de ce musicien aux multiples facettes va parfaitement s'imbriquer et orienter celle des frères pendant 17 ans.
Quel était votre répertoire à cette époque ?
Eh bien, au début, notre répertoire, c'était des chansons folkloriques. Et on s'est aperçu qu'à Paris, le folklore n'intéressait personne. Et tout d'un coup, l'entrecôte nous a donné une ouverture enfin, vis-à-vis du public. On a vu que le public marchait vraiment à fond. Et on s'est dit, il n'y a pas de doute, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Ça a été la chanson qui nous a donné le style, si vous voulez. Cette chanson, et surtout, et en même temps, les collants de Jean-Denis Malcaise.
Ah.
Parce que on avait à l'origine des pantalons de velours, une chemise blanche, un pullover blanc et des chaussures de raffia, ce qui était tout à fait très, très banal. Et lorsque Malcles a dessiné ce collant, on a été obligé de jouer autrement. Donc d'utiliser à fond, si vous voulez, l'expression corporelle. Il fallait absolument que tout le corps soit en mouvement. Donc nécessité d'une mise en scène très différente de ce que nous faisions auparavant.
Tout ça pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes. Quelle commis son initiale faute qui la rabaisse au rendu de mi-monde.
Olivier Barrault, à quoi ressemble le métier de la chanson française à partir des années 45, juste après-guerre ?
C'est une période très très difficile pour nos compatriotes, c'est une période de carences en tout genre, les tickets de rationnement continuent d'exister. On est vraiment dans la contrainte. Il y a des problèmes sociaux innombrables, des grèves, des difficultés de logement insurmontables, un état économique désastreux. Et pourtant, c'est bel et bien la libération, c'est-à-dire que les mentalités sont portées vers une sorte d'euphorie dont témoigne entre autres la chanson, mais pas seulement, le cinéma aussi, le théâtre, le musical. C'est l'époque bénie dite de Saint-Germain-des-Prés. Et on voit là dans les fameux sous-sols enfumés, du Tabou par exemple, club de jazz, ou dans des quantités de petites salles, on voit naître ou renaître une activité frénétique. C'est l'époque des existentialistes. C'est l'époque où apparaissent des gens comme Boris Vian, trompettiste, un homme de jazz, un auteur. Il fait les soirées, notamment du Tabou, avec des quantités de ses amis, dont Juliette Gréco, dont Claude Luther, dont Sidney Bechet, l'Américain. Quelque temps après, Miles Davis, qui est le compagnon à la ville de Juliette Gréco. Et puis les chers frères Jacques, les frères Jacques qui débutent leur activité professionnelle en 1945, frais et moulus qu'ils sont du groupe Travail et Culture, c'est-à-dire une espèce d'association qui essaie de montrer qu'on peut intéresser au théâtre, à la culture, à la curiosité, aux beaux-arts, des quantités de gens qui n'ont pas nécessairement été formés, mais qui peuvent y trouver du plaisir. C'est une activité très politique, hein, très sociale, et relativement bien organisée d'ailleurs. C'est de là que proviennent une grande partie de la troupe des frères Jacques, en tout cas deux des quatre. Et ils se lancent en 1945. Ils vont connaître très vite le succès et amorcer une carrière internationale prodigieuse qui va les emmener jusqu'à 1982. C'est vous dire que la chanson, dans ces années-là, mais j'ai cité Gréco, mais il faudrait citer les tout débuts de Charles Aznavour, le retour d'Edith Piaf, la création du groupe Les Compagnons de la Chanson et les Quatre Barbus qui ont anticipé encore sur les frères Jacques. Un nombre incalculable de talents. C'est souvent comme ça à la fin des conflits. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une envie de s'amuser, une envie de créer, et je crois que c'est le souvenir qu'on a gardé de ces années-là.
Et au milieu de ce spectre musical qui s'élargit, qui grandit à l'époque, qu'est-ce que représentent les frères Jacques, déjà, à leur début ?
Alors, les frères Jacques ont d'emblée marqué les esprits, dès 1945, parce qu'on peut dire qu'ils ont inventé un type de spectacle qui jusqu'alors n'existait pas sous cette forme. Leur premier succès, c'est la fameuse chanson « L'Entrecôte ». C'est une fausse chanson réaliste des années 1900, une espèce de, vous voyez, de complainte comme ça, du malheur d'une malheureuse contrainte de se prostituer pour faire vivre ses petits frères. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes. C'est un pastiche en réalité de la chanson réaliste des années 1900 et qui est tout à fait irrésistible. Et pourquoi est-ce que c'est original ? Eh bien, c'est parce que contrairement à ce que peuvent faire d'autres groupes vocaux. J'ai cité les Quatre Barbus et bien sûr les Compagnons de la Chanson qui doivent beaucoup à Edith Piaf d'ailleurs, qui les aura soutenus, etc. Les frères Jacques, il faut bien le reconnaître, ça n'a rien à voir. Car les frères Jacques sont à la fois des chanteurs, mais aussi des acteurs et des mimes. C'est-à-dire qu'ils inventent un spectacle total au cours duquel on voit ces quatre garçons, dans leur costume inventé par Jean-Denis Malclès, non seulement interpréter des airs, bien entendu, mais les jouer et les mimer. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, à l'instar des interprètes des comédies musicales américaines, des musicals, chose qui à l'époque n'existe pas en France véritablement, à l'instar donc du musical américain, savent absolument tout faire. Ils savent se mouvoir sur un plateau, comme des comédiens, ils savent dire des textes, ils savent jouer la comédie et la mimer. Ça va même jusqu'à la chorégraphie, d'une certaine manière. Certaines de leurs chansons sont de véritables petits ballets. Le tout porté par des créations qui, sur le plan musical et sur le plan des paroles, sont quelquefois absolument magnifiques. D'ailleurs, Hubert de Gex y a contribué puisqu'il a écrit la musique de chansons pour les frères Jacques. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Vous avez des mini-spectacles qui durent 3 minutes, 4 minutes, le temps d'une chanson, le temps d'un air, quelquefois le temps de paroles seules. Après tout, ils vont redire les fables de La Fontaine à leur façon. C'est complètement singulier. Et ils ont cette particularité de n'être pas vraiment des professionnels, ni de la chanson, ni de l'art dramatique.
Jacques Prévert et Joseph Cosma inventèrent.
Et en 1950, vous avez eu le premier prix, le grand prix du disque, pour L'Inventaire.
Ça a été notre premier prix. Il faut dire qu'on a enregistré je crois, 8 chansons de Prévert et Cosma, dont Inventaire.
En 1951, première tournée en Amérique du Sud.
Il y avait Marceau aussi.
Oui, le mime.
Oui.
Le mime. Oui. À votre retour à Paris, vous avez fait votre premier récital en 52.
Auparavant, c'était quand même rodé dans les musicals, on a fait souvent l'ABC.
Et ça a été vraiment un très grand triomphe.
C'est ça, oui. On avait pensé faire, je ne sais pas combien, 30 représentations, et puis on est resté plusieurs mois.
45 ans de bons et loyaux services, 2 ans de prison, 6 ou 7 péchés capitaux, 3 mousquetaires, 1 milieu sous les mers, 32 positions, 2000 ans avant Jésus-Christ, 5 gouttes après chaque repas, 40 minutes d'entracte, 1 seconde d'inattention. Et naturellement, le raton
voilà.
Hubert. Nous sommes au studio 106 de la Maison de la Radio.
Il faut que je joue un peu parce que moi, mon piano, qui a un an de plus que moi, tu vois, ça ne le rend pas jeune. Il est devenu beaucoup plus facile à jouer parce qu'il est mou, ça. Celui-là, il est un peu dur, quoi.
Bon, alors, vous vous souvenez avoir joué souvent ici avec les frères Jacques, jouer du piano dans la Maison de la Radio?
Avant les frères Jacques, j'avais fait ici la musique d'une série qu'on avait faite avec François Châtel.
Une comédie musicale?
Une comédie musicale, oui, avec Jacqueline Monsigny, Marie-Blanche Vergne,
Ça s'appelle Souviens-toi, ma jolie, c'est ça ?
80 morceaux. Vous ne m'êtes pas indifférent.
Alors, quand vous avez 18-20 ans, quand vous commencez, vous jouez chez Mimi Pinson, c'était un cabaret très connu à l'époque. Parce que vous étiez quand même pianiste de jazz.
Une petite rue, là, sur les Champs-Élysées. Et en fait, c'est parce que j'ai commencé vraiment à travailler, c'est-à-dire à être professionnel, avec François Billédou, qui m'a dit, je devais avoir 18 ans toujours, François m'a dit, j'ai décroché une émission. Et comme Billédou avec Billédou, nous étions mis d'accord pour dire que si je faisais une musique dans cette émission, il fallait que j'aie un petit ensemble. Et donc, j'ai demandé une clarinette. Et ce monsieur, je crois 6 mois ou 1 an après, est venu chez moi et me dit, voilà, j'ai l'affaire du Mimi Pinson, j'ai un orchestre de, je sais pas, ils étaient 15 à peu près. Il me dit, j'ai pas de pianiste, je voudrais que tu sois le pianiste de l'orchestre. Et moi, j'ai dit, j'ai jamais fait ça, moi, je sais pas ça. Il me dit, mais c'est pas difficile, tu fais tchic, boum, comme ça. Moi, c'est facile, tu verras, tu t'y feras très vite. Et j'ai accepté. Et ça a été le départ de ma carrière en tant que musicien professionnel. Et je me suis retrouvé le pianiste de Jerry Mingo. C'était formidable. J'étais content, mais je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Et puis après, on a fait le Casino Bellevue à Biarritz, 2 années de suite, je crois. Et puis enfin, on s'est retrouvé à Paris au Carols. C'était la boîte, à l'époque, la plus célèbre de Paris. Et venaient très souvent les musiciens américains, quand ils étaient de passage à Paris, ils venaient y jouer dans notre orchestre. On avait un saxo de chez Gillespie. J'ai évolué dans ce métier sans me rendre compte de la chance que j'avais.
Et au Carros, vous jouez devant des personnalités américaines.
Absolument. Je peux vous raconter que la table à côté de moi, il y avait Elizabeth Taylor, qui devait avoir, je sais pas, 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça, qui avait fait passer toute la soirée là. J'avais pris l'habitude de voir des célébrités.
Vous vous souvenez de ce que ça donnait au niveau des notes, au niveau du piano?
Il y a un truc que j'avais joué, je me souviens, je sais plus si je vais savoir.
– quand vous débutez à cette époque-là, vous avez notamment rencontré Quincy Jones.
Oui, j'étais chef d'orchestre dans les maisons de disques à l'époque et arrangeur. Et on m'avait demandé d'écrire deux orchestrations. Mais à la baguette, c'était Quincy Jones. Et j'ai connu comme ça Quincy Jones. Je crois qu'il y avait un truc. Je ne sais même plus comment ça s'appelait. C'est un standard américain.
Alors, côté chanson française, vous rencontrez aussi Henri Salvador.
Oui, j'ai dû travailler avec lui parce que je me souviens qu'il était venu. J'avais mon premier fils, et Salvador était venu avec sa guitare, on devait répéter un truc, et il a, avec sa guitare, il la prenait par le manche comme ça, et en la balançant, il faisait les cloches. Il touchait les cordes, et ça faisait gling, glang, gling, glang. Et c'était formidable, Salvador. Il riait tout le temps. Mais c'était pas que ça, je veux dire, c'était, à mon avis, le meilleur chanteur qu'on avait en France.
Des jours chante au sable fin sa chanson d'amour.
Quelques années avant que vous ne rejoigniez les frères Jacques, il y a un artiste dont vous avez orchestré plusieurs chansons, presque une dizaine, c'était en 1960 et 61. Elle vous a particulièrement marqué, c'est Pétula Clark. Elle est avec nous en duplex depuis la radio-télévision suisse à Genève.
Oh, c'est extraordinaire, ça.
Bon, moi aussi, Hubert, je suis ravie d'être là pour toi. Ça fait longtemps, hein.
Oui, ça fait longtemps.
Un peu trop.
Tu sais, de temps en temps, je t'écoute. C'est-à-dire que les disques qu'on a fait ensemble, il m'arrive de les mettre sur le tourne-disque pour t'entendre.
Parce
que
c'est gentil.
Tu es pour moi la chanteuse qui chante le mieux.
Non, c'est pas vrai, mais merci quand même. Et moi, je trouve que tes orchestrations sont vraiment, vraiment merveilleuses.
Ne change rien à ta façon de chanter.
Pétula, comment était Hubert dans le travail?
C'était un vrai gentleman. Alors, je parlais pas tellement bien le français et c'était encore tout neuf pour moi. Et à Paris, j'ai trouvé les gens un peu speed. Il parlait très vite, et c'était... Et avec Hubert, c'était plus gentil, plus doux. C'était un gentleman, quoi. Oui, je ne sais pas si tu es toujours un gentleman, Hubert.
Si tu étais près de moi, je serais toujours un gentleman.
Oh.
Est-ce que vous vous souvenez comment vous travailliez tous les deux en studio quand vous étiez en train de faire des orchestrations, que vous chantiez, et ça se passait comment?
On appelait ça du playback. On enregistrait d'abord l'orchestre et Pétula était à côté de moi pendant que je dirigeais l'orchestre pour que je sache exactement ses tempos, ses ralentis, etc. Et après, on était dans un studio, tous les deux, pour écouter l'orchestre qui avait été enregistré. Et Pétula, c'est une merveilleuse musicienne. Attaquer une note droite et la vibrer sur la fin. Enfin, tous les trucs que j'aime, en fait.
Non, mais en fait, c'était facile, les enregistrements. C'était
oui.
Parce qu'il y avait un genre de contact entre nous qui... Oui, c'était facile.
Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup accompagné, comme dans les maisons de disques, de chanteuses et de chanteurs. Mais... Je n'en ai admiré aucune comme je t'ai admiré toi. Je te jure que c'est vrai, Pétula.
Ah ouais, je ne sais pas quoi dire. Merci.
Et je vais vous parler d'une chanson que vous avez faite ensemble. Je compte sur toi. Qu'est-ce que cette chanson vous évoque, Pétula, Hubert?
Je compte sur toi. Oui.
Oui, je me souviens.
Oui, c'est pas mal, quoi.
J'ai trouvé toi.
T'embrasse très très fort.
Et moi aussi, je te serre dans mes bras très très fort.
Ça faisait
okay. Merci à toi.
Et puis si c'est à Japier, c'est ici que je m'arrête. La suite est à deviner. Je campe sous toi. Je campe sous toi. Yeah, 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 yeah. Oh oui, oui, chérie. Je campe sous toi.
Vous êtes musicien de jazz au départ, qu'est-ce que vous jouiez?
Avant tout, j'étais classique. Ma mère, qui avait été, je peux dire, une très grande musicienne, mais qui n'avait pas fait carrière, parce qu'à l'époque, Son père était très à cheval sur les principes. Elle avait le droit de jouer dans les salons de son piano, mais elle était extraordinaire, elle jouait beaucoup mieux que moi. Et moi, quand j'avais 3-4 ans, elle jouait du piano, je m'asseyais sous le piano et j'écoutais ça. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a imprégné de musique. Quand j'écoute ce que j'aime, c'est-à-dire Mahler, Rachmaninov, des gens comme ça, j'ai des frissons dans le cou, physiquement ça me fait quelque chose.
Papa.
Tu vois.
Philippe, vous êtes le fils d'Hubert. Vous vous souvenez, quand vous êtes enfant, vous avez vu passer beaucoup de chanteurs, de chanteuses, d'artistes connus.
Oui, effectivement, oui. À l'étage en dessous, il y avait José Bartel. José Bartel, c'était un chanteur qui doublait dans les films. Et...
C'est lui qui avait chanté.
Et c'est lui qui doublait effectivement l'acteur italien là dans Les Parapluies de Cherbourg. Donc voilà, c'était et au-dessus il y avait des amis et qui supportaient qu'à 4 heures du matin il y ait des bœufs qui se montent parce que ça il y a des nuits où j'ai pas beaucoup dormi mais c'était sympa. Et en 61, il y avait une télé à la maison et je pense qu'on était un des rares foyers de l'époque à en avoir une parce que Hubert dirigeait la Piste aux Étoiles et donc pour nous, c'était une façon de voir notre père en train de travailler. Et il y avait cette espèce de relation incroyable où on voyait notre père à la télévision déjà à l'époque.
J'avais à Music Hall Parade, j'avais un orchestre de 40-50 musiciens.
Alors comment ça s'est passé? Comment oui. Vous êtes devenu d'un seul coup? Comment est-ce qu'on vous a finalement arraché à votre fonction de pianiste, arrangeur, chef d'orchestre? Quasiment du jour au lendemain, on vous présente les frères Jacques et vous devenez leur pianiste.
Oui,
c'est... En 65.
Un jour, je reçois un coup de téléphone des disques Philips. J'étais agréablement surpris, parce que mes contacts avec les frères Jacques, ça a été quand je reviens toujours à mes 18 ans, et j'allais à la Rose Rouge, et il y avait les frères Jacques à la Rose Rouge, et pour moi c'était formidable, mais j'imaginais jamais que je pourrais les accompagner. Alors j'ai rencontré Paul Touraine, il m'a dit mais on part en tournée tout le temps, on pourra pas répéter ensemble. Alors ça a commencé comme ça. Ils ont fait un spectacle à Paris où j'étais avec mon magnétophone que j'ai branché en coulisses et j'ai enregistré tout leur spectacle. J'ai pu travailler chez moi après avec ça. Et je suis devenu donc leur pianiste. À partir du 1er janvier 66, eh ben c'est moi qui écrivais tous les arrangements des frères Jacques, qui avait leurs quatre parties, qui écrivait le petit truc pour enchaîner, qui écrivait... Voilà.
Il faut aussi dire que vous devez une bonne part de votre succès, de votre réussite, d'abord à Pierre-Philippe, qui a travaillé avec vous pendant une quinzaine d'années, oui. Et depuis 1966 à Hubert Deschênes.
Ah, certainement, oui.
Et ça, vraiment, le cinquième frère est irremplaçable.
Quand on parle des frères Jacques,
il est toujours inclus.
Il est toujours inclus, notre...
Hubert Deschênes, qu'est-ce qui vous séduit dans le travail de ce quatuor?
Je ne l'explique pas. Il y a le génie des frères Jacques sur scène qui est inexplicable. Enfin, moi je peux pas l'analyser. J'ai remarqué au Théâtre Fontaine une fois, j'ai été surpris. En principe, on ne voit pas la salle. On voit le fameux trou noir puisque les projecteurs nous aveuglent. Mais on peut quand même regarder ce qui se passe autour. Et j'ai vu dans la salle, j'ai eu l'impression de voir des enfants au guignol et qui croient à chaque chanson, à chaque personnage et au merveilleux.
Hubert, ce qu'on vient d'entendre, c'était à l'ORTF en 1970, c'était au cours d'une émission avec toute la troupe. Est-ce que vous vous souvenez d'un air que vous aviez composé pour les frères Jacques?
Il y avait celle-là, oui. C'était ce que c'est beau la photographie.
Pas raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux des beaux jours passés. C'est beau la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Pas raison pour qu'on les oublie. au 50e, ça fait de l'effet sur la matin. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur.
Olivier Barrault, ce que c'est beau la photographie, c'est une chanson qu'aime beaucoup Paul Touraine. C'est une chanson dont la musique a été composée par Hubert de Gex. C'est un morceau très sautillant, ce qui correspond aussi au style jazz de Hubert, qui tranche d'ailleurs avec le style de Pierre Philippe, le pianiste précédent. Quel est pour vous l'apport d'Hubert dans Les Frères Jacques ?
Il faut reconnaître que succéder à Pierre Philippe n'allait pas de soi. Et ils ont finalement choisi un type très jeune, qui avait une trentaine d'années à ce moment-là, et dont et la formation et l'activité étaient assez singulièrement différentes de celles de Pierre Philippe. Alors vous avez dit sautillant, c'est tout à fait vrai, beaucoup plus jazzy, beaucoup plus. Il y a chez lui une sorte de comme ça d'éclat et de sourire et d'ironie qui est immédiatement sensible. Et évidemment, ça leur a convenu. Et c'est aussi leur talent que d'avoir été chercher ce gars-là, qui n'était pas le plus attendu parmi les successeurs potentiels de Pierre Philippe. Ça se passe en 1965, et c'est certain, ce sont les années de leur triomphe partout. Je veux dire qu'ils triomphent dans des pays d'Afrique qui viennent d'accéder à l'indépendance, tout comme ils triomphent sur le Rio de la Plata, à Buenos Aires, à Montevideo. Sans parler des États-Unis, de la totalité des pays d'Europe qu'ils ont parcouru d'une manière régulière, et qu'ils ont vraiment, on peut le dire, une notoriété universelle. Ce qui est assez rare, je crois que c'est complètement unique pour un groupe français, à ce niveau d'universalité en tout cas. Bon. Quant à caractériser l'apport d'Hubert, moi, ce qui m'a toujours frappé, il y avait chez eux, entre eux en tout cas, ça c'était très 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 sensible sur scène, une espèce de complicité. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment de quelque chose que rien de grave ne pouvait se produire. Tout se rattrapait. Et s'il y avait de temps en temps un incident, quelque chose, tout allait retourner, tout allait se poursuivre, tout allait dans l'harmonie et l'ironie. Entre eux, ce qu'on voyait de temps en temps, c'était la complicité. Un regard, mais très furtif, hein, ça allait très très vite. Parce que ça aussi, c'est important. Avec les frères Jacques et leurs deux pianistes, il fallait que les choses aillent vite. Tout passe et que le public en est complètement séduit. On avait l'impression que derrière son clavier ou devant son clavier, il parlait autant à ses quatre copains qu'il parlait au public.
La confiture, ça dégouline, ça coule, coule sur les mains. Ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Voudrait contrôler sa tartine, la tenir droite exactement.
Jean-Luc Biaiseau, vous étiez le régisseur des frères Jacques.
Oui, en fait, j'ai terminé toute la tournée pendant les 7 dernières années avec les frères Jacques. J'étais tout jeune, j'avais 21 ans. Et ce qui est formidable avec ces gens-là, c'est que non seulement ils vous apprennent tout, mais ils sont devenus des amis et ils m'ont tout appris dans ce métier, tout. Et puis aussi, comment ne pas prendre la grosse tête.
Et la rencontre avec Hubert au sein des frères Jacques, quel souvenir vous en avez ?
Ah, Hubert. La première fois qu'on est parti ensemble, on est parti en voiture à Évian. Et alors, on arrive dans un grand palace. Alors moi, j'étais un peu sur la retenue. Et Hubert dit, mais il faut... Jean-Luc, regarde. Monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Alors, ils appellent le serveur. Oui, je voudrais 8 frites, s'il vous plaît. Alors, le type lui compte 8 frites. Il dit, tu vois, c'est simple dans la vie.
On est devenus très copains, mais on n'arrêtait pas de rigoler ensemble. Pendant que Jojo et François, deux des frères Jacques, jouaient au Scrap, voilà, dans leur chambre d'hôtel, nous, on faisait les imbéciles un peu partout.
C'est vrai que dans les contrats des frères Jacques, il était stipulé qu'il fallait du vin rouge.
Je crois pas dans les contrats, mais c'est vrai que les Bellec, André et Georges, ils appelaient le vin rouge le tilleul breton.
Et quand ils demandaient du tilleul, ça voulait dire du vin rouge. Et c'est vrai qu'ils aimaient bien ça.
Hubert, il paraît que vous aviez mis une troisième pédale à votre piano pour contrôler les lumières.
Alors, effectivement, il y avait une 130 effets de lumière qui était placée à la seconde près, à la note de musique près, c'était d'une précision remarquable. Donc quand on arrive au départ, on ne peut pas savoir exactement quelle note de musique faut changer de lumière. Donc il avait une petite pédale sous le piano qui m'envoyait un petit signal lumineux en régie, clac, c'était là qu'il fallait passer l'effet. Et puis après, je lui ai dit, bon, allez, on la met plus la pédale parce que c'est bon, je connais tout par cœur.
C'était sur une note qu'il fallait faire ça. Sur certaines chansons, il y avait bien 30 ou au moins une trentaine de changements. Hein.
Voilà, alors pour vous expliquer comment j'étais accueilli dans cette équipe, à la fin de la première année de tournée, enfin ça faisait 6 mois qu'on tournait, on était au mois de juin, et ils ont une proposition pour aller faire un spectacle au Brésil. Moi, 20 ans, le Brésil, je commence à avoir les yeux qui s'illuminaient, et ils disent, bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour le Brésil? Alors on vote. Alors, il y a Hubert et Paul qui votent pour, et François, André et Jojo qui votent contre, parce que ça arrivait les vacances. Alors, ils ont dû voir que j'étais tellement décontenancé, il y a Jojo qui regarde François et qui dit « Allez, pour le petit, là, on va au Brésil. »
Quand on était enfant, enfin, avec mes frères, quand il n'était pas en tournée, le soir après le dîner, de temps en temps, on avait de chaque côté du piano qui était dans le salon, parce que voilà, c'était comme ça, on avait deux piles, une de chaque côté du piano, qui devait faire 1 mètre, 1 mètre 50 de partition. Donc le jeu, c'était de sortir une partition au hasard, de l'ouvrir sur le pupitre de piano, et à dire à notre père, tiens papa, est-ce que t'es capable de jouer ça? Bien sûr, il le jouait. Mais il le déchiffrait souvent, parce qu'il n'avait pas travaillé depuis longtemps. Et puis c'était n'importe quoi, c'était du classique. Ça pouvait être des vieux machins de variété qui traînaient entre deux machins, enfin bref. Et c'était assez formidable, parce que au bout d'un moment, pris dans le jeu, on lui disait « Maintenant, tu peux nous faire le train, ou l'avion, et puis la pluie. » Et à chaque fois, il nous faisait un truc au piano. Et c'était vraiment magique, parce qu'il maîtrisait son instrument à tel point qu'il pouvait reproduire des sons du quotidien. Donc nous, on était complètement... on se marrait, quoi. C'était un jeu. Puis, quand on rentrait de l'école, quand mon père n'était pas en tournée, il répétait, et notamment avec les frères Jacques, et on entendait les répétitions, on était dans nos chambres, on devait pas faire de bruit, ensuite on allait dîner dans la cuisine, et puis tout d'un coup, avant qu'on aille se coucher, la porte du salon s'ouvrait, et alors là, il y avait une espèce, c'était un peu comme dans les films de science-fiction, là, il y a des gens qui sortaient dans la fumée, parce qu'ils fumaient pas mal quand même, les Jacques, à l'époque, la pipe, des trucs comme ça. Et on voyait ces 4 types sortir, là, et alors nous, on était vachement impressionnés, et ils venaient nous voir, nous embrasser, et voilà, et puis c'était comme ça quasiment tous les jours, mais c'était magique, quoi.
Ils ont aiguisé leurs archets, comme le couteau des bouchers. Ils ont éventré le piano, en prétextant qu'il était faux. Ils ont balisé les flûtes et les flûtures des alentours. En renfort de dernière minute, ils ont pris les clairons du bourg. Bam, 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 bam.
Ça m'a fait le bruit dans l'Andernau.
Il s'est passé avec Hubert de Gex ce qui ne s'était jamais passé auparavant. Il a insisté pour que nous montions une certaine chanson, alors que tous les quatre, on l'avait apprise, on l'avait enregistrée, mais ma foi, on ne pensait pas tellement que sur scène, elle marcherait. Et c'est Hubert de Gex qui nous a dit, moi, je vous vois d'un œil neuf, je viens du dehors, je vous promets que ça, c'est pour vous. Dans son insistance, quand même, on a dit, ah bon, oui. Ben, on va essayer. Et on a essayé, ça a marché.
Quel étrange concert.
C'était l'étrange concert, et
on ne voyait pas,
c'est pas pour nous,
faire.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-dessus, c'est pas possible, etc. Mais il nous a tellement dit, je vous garantis que vous devez faire quelque chose.
Hubert de Gex.
Oui.
Oui, on vient d'écouter, donc, de vous écouter, d'écouter les frères Jacques.
Oui.
D'étranges concerts, donc vous avez poussé les frères Jacques à prendre cette chanson.
Oui, 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 mais heureusement j'ai bien fait parce qu'ils en ont fait un truc formidable.
Quand on écoute la version album, la version disque en tout cas, on entend des cordes. Il n'y avait pas toujours que du piano finalement dans les arrangements.
Ah non, je pouvais pas là. C'était l'étrange concert. J'ai été obligé de faire. Enfin, il y a des chansons qu'on a enregistrées en studio avec un orchestre. Mais moi j'avais bien aimé écrire le. Parce que c'était. On a assassiné Mozart, quoi. Alors, j'avais écrit vraiment, j'ai pris un orchestre, pas symphonique, il n'y avait pas 80 musiciens, mais suffisant, avec des cordes, des bois, des cuivres, avait tout ce qu'il fallait, quoi.
Pauvre Chopin.
Alors nous allons, si vous le voulez bien, prendre une chanson. Supposons que vous venez de choisir une chanson. Alors, que faites-vous?
D'abord, elle est choisie à la majorité.
Ah, on vote?
Ah oui, on vote. Si nous sommes trois pour la chanson et deux contre, on la travaille.
Bon, alors vous l'avez choisie, vous avez voté, la chanson a eu la majorité.
Hubert.
Ah, l'harmonisation déjà tout de suite?
Ah, tout de suite, oui, oui. C'est-à-dire, il y a une répartition des voix et des personnages qui est un petit peu, presque, disons, traditionnel, en
c'est
fait.
C'est la distribution, comme on dit au théâtre.
Oui, ils ont chacun un personnage assez précis. Et au départ, disons que s'il y a une femme, c'est souvent François. Paul, évidemment, c'est le ténor, c'est le chanteur. Et lorsqu'il commence à la savoir suffisamment, alors là, je disparais et il travaille tout seul.
Alors, intervient le rôle du metteur en scène. Y a-t-il parmi vous un metteur en scène attitré?
C'est notre miroir. Bon. C'est une grande glace. On essaie de trouver la mise en scène correspondante à la chanson que nous avons choisie. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, on va essayer de faire ce pas, ce rythme, et puis on ne trouve rien. Puis tout d'un coup, il y en a un qui a une idée. Tiens, si on faisait plutôt cette marche-là, ou alors si on dédoublait le pas, on arriverait peut-être à trouver quelque chose de plus intéressant. Et peu à peu, ça demande des semaines et des semaines, 3 à 4 semaines, pour arriver à mettre au point une chanson scéniquement.
Mettre la ceinture lorsqu'on auto, on va se promener. Mais avant de mettre la ceinture, pas la ceinture, faut la trouver. Il y a un bout avec un truc, il y a un bout avec un machin. Quand on enfonce le bout qu'un truc, il doit faire clic dans le machin. Bout qui se termine par un machin, s'accroche à gauche sur un truc. Mais comme on ne trouve jamais le truc, on laisse pendouiller le machin. Seulement le bout qui a un truc, lui s'accroche pas sur un machin. Ce qui fait que lorsqu'on cherche le truc, il est paumé sous les coussins.
Marcel Carré, vous avez écrit des chansons pour les frères Jacques, mises en musique, certaines par Hubert.
Bien sûr, oui. Par exemple, la ceinture, c'était un sujet qui était dans l'air parce que tout le monde avait des difficultés en 1975 avec la ceinture qui se baladait toujours. Je savais que c'était un sujet de chanson. Et puis j'ai pensé au frère Jacques. Et en pensant au frère Jacques, alors j'ai écrit la chanson dans les 24 heures.
Hubert de Jex, quand vous recevez des paroles de la ceinture par Martial Carré, au moment d'écrire la musique, comment vous allez inventer la musique?
Quand on écrit une musique, si tu es inspiré par le texte, tu l'écris très vite. Tu es venu et j'ai joué ça. Et les copains autour de moi ont dit mais on peut faire quelque chose de formidable avec ça.
Martial Carré, donc vous avez été le directeur du Caveau de la République. Pour vous, qu'est-ce que représentaient les frères Jacques sur la scène française à cette époque-là?
Pour moi, les frères Jacques, c'était vraiment une espèce de concentration de toute la chanson française, quoi. C'était, ils chantaient la fantaisie, ils chantaient l'amour, ils chantaient la poésie. C'était, il y avait tout dans le répertoire des frères Jacques. Et en plus, ils ajoutaient, bien sûr, une mise en scène qui était vraiment, à l'époque, c'était très original. Il y avait beaucoup de l'espièglerie des frères Jacques, par exemple, ça, ou la tendresse des frères Jacques, une chanson quand ils chantaient une chanson comme La Branche, on éclatait de rire et on fondait à la fois dans une chanson. Le spectacle se déroulait comme ça et c'est pas possible d'avoir un moment. On n'avait pas de pause quand on était spectateur parce que et puis on attendait un peu ce qui allait se passer derrière parce que personnellement moi j'avais hâte de voir, je dégustais la chanson. Et j'attendais celle qui allait suivre, et avec l'envie que ça ne s'arrête pas, quoi.
C'est comme ça qu'on vit sa vie. On est sur une corde raide. À chaque instant, on croit qu'elle cède. Et puis un peu le soleil. À toute heure, brusquement cette branche sur laquelle on se tient, on s'accroche et l'on glisse et l'on flanche un oiseau est venu se poser ce matin sur la branche. Il se baigne au soleil.
Olivier Barrault, de quoi ils parlent les frères Jacques dans leur texte? Finalement, c'est la chronique du quotidien. C'est pour ça que ça a un succès si populaire.
C'est quelquefois la chronique du quotidien, mais ce sont en même temps des registres extrêmement variés. Il leur arrivait aussi souvent de solliciter des textes. Ça explique par exemple leur collaboration avec un type qui, je crois, détenait une part de génie, qui est Francis Blanche. Quand vous prenez une chanson comme « Les boîtes à musique », dont il est l'auteur. C'est une chanson absolument sublime. Ce sont des automates qui interprètent un air de boîte à musique. Et les automates, ce sont des machines que l'on remonte et qui, au bout d'un moment, ralentissent et finissent par s'arrêter. Les frères Jacques ont conçu une dramaturgie de la chose qui est absolument admirable. Bon. Mais le texte de Francis Blanche est un texte d'une poésie qui renvoie au XVIIIe siècle, d'ailleurs, et qui est magnifique.
Ni que les mois romantiques parfums les ont révolus. À danser marquise.
C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans quelque chose qui serait lié à la quotidienneté. Quand les frères Jacques évoquent la ceinture de sécurité, là on est dans le quotidien. Et puis vous avez de temps en temps la fenêtre, si je puis dire, Jacques Prévert, avec lequel les frères Jacques ont énormément travaillé. Il y a une chanson des frères Jacques que j'aime énormément, qui est celle du bonhomme de neige, vous savez, qui va se réfugier parce qu'il a froid au bord d'un poêle et qui évidemment fait que le bonhomme de neige fond. C'est-à-dire, c'est une chanson tout à fait magnifique, très prévertienne, et qu'ils ont merveilleusement interprété, une chanson très très courte d'ailleurs.
Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît.
Donc, il y a tout chez eux, il n'y a pas qu'une seule source d'inspiration.
Puis aussi la période Bernard Dimet, avec les musiques d'Hubert de Gex, donc Fredo par exemple, Le Quartier des Halles. Donc là aussi, on touche encore à un autre univers.
Oui, Dimet c'est vraiment un poète, hein. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a une veine poétique chez les frères Jacques, qui a toujours été, non pas revendiquée, parce qu'ils étaient tout sauf... comment dirais-je, ils ne revendiquaient rien du tout. Ils exprimaient leur façon de travailler avec infiniment de modestie. Alors, de temps en temps, j'ai cité Jacques Prévert, vous citez à juste titre Bernard Dimet, il y en a eu d'autres. Ils ont su quelquefois se pencher sur les poètes, ils ont redit ou réinventé d'une certaine manière la dramaturgie des textes de La Fontaine. D'ailleurs, La Fontaine, à mon sens et à leur sens, c'est au moins autant un auteur de théâtre qu'un auteur de fable. C'est-à-dire que les fables, elles sont faites pour être réinterprétées. Vous voyez, c'est tout ça. Il n'y a aucune limite au fond. Et c'était leur immense talent, leur immense curiosité que de ne rien s'interdire.
Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ravage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix.
Alors je suppose que tout le monde doit vous dire la même chose que je vais vous dire, c'est que est-ce bien utile de faire ses adieux alors que tout le monde vous regrette, vous tire par la manche, vous tire par le collant en vous disant restez avec nous. Pourquoi? Qui répond?
Nous avons décidé de nous arrêter.
Vous êtes qui vous déjà?
Soubiran.
Soubiran.
Voilà. Nous avons décidé donc comme un accord de nous arrêter parce que ça fait quand même 37 ans que nous chantons et nous avions fait ce numéro quand nous étions jeunes et puis le temps passant, on s'aperçoit qu'on vieillit. Alors, nous préférons nous arrêter quand il est encore temps.
On peut vous demander vos âges ou c'est... Non On peut toujours demander, pas forcément de répondre.
Il y a des cas.
Vous êtes tous quinquart. Hein.
Alors, quinquart et sexat.
Et monsieur de Gex?
Oh, lui, c'est un quart plus encore dans les quinquarts.
Oui, vous pouvez durer beaucoup plus longtemps, vous, piano, il n'y a pas
de problème. Bien, mon petit quinquart.
En 82, les frères Jacques arrêtent leur carrière. Et là, pour la première fois, vous n'avez plus de travail.
J'ai jamais cherché de travail et j'en ai toujours eu. Des amis, sachant que j'avais arrêté avec les frères Jacques, venaient me chercher pour que je travaille avec eux. Donc je me suis retrouvé à faire des tas de choses sans l'avoir cherché.
Hubert, donc vous devenez le pianiste du Caveau de la République pendant plusieurs années.
Ça m'a apporté pas mal de choses. D'abord, j'ai retrouvé des bons copains, tous ces chansonniers. Et un soir, il y avait une ardoise sur laquelle Martial Carré inscrivait chaque soir les gens qui allaient venir. Et un jour, je vois Florence Brunol. Et je demande à Martial Carré, qui c'est ça? Je la connais pas. Il me dit, oh, tu verras, elle est bien, elle est très bien. Bon. Et effectivement, je l'ai vue et je l'ai trouvée très bien.
Ben là, je crois avoir quand même un rôle assez important, c'est-à-dire que je l'ai sauvée. Parce que vous savez, quand on a eu sa carrière, quand on a eu ses heures de gloire, c'est difficile, hein, de tout arrêter. C'était une période très très difficile pour lui. Et puis je suis arrivée au bon moment et là, je lui ai rendu ses 20 ans. On peut le dire.
Alors après, il y a le théâtre. Vous faites du théâtre ensemble.
Après, eh oui, parce que, bon, on a monté un spectacle ensemble. On a fait des spectacles musicaux, burlesques. Il y avait un peu de tout. Et puis, quand Sim est venu voir notre spectacle, et quand il m'a dit, bon, je te veux, j'ai dit oui, mais jamais sans Hubert.
N'étant pas comédien, j'ai pas essayé de jouer la comédie. Et dans la pièce de Sim, j'étais inspecteur des impôts. Ça a commencé comme ça.
Non, chez nous, on est inspecteur de père en fils.
Ah ouais, vous avez un fils ?
Alors, Henri Guibé.
Je ne suis pas marié.
Oui, vous êtes aussi, on a quasiment tout le casting aujourd'hui d'une cloche en or. Malheureusement, Sim n'est plus de ce monde. Mais
très pris en ce moment. Moi, je suis arrivé dans cette équipe, je vois De Gex, comme a dit, c'est l'inspecteur des finances. J'avais lu un peu la pièce, je dis, bah oui, il a une tronche d'inspecteur des finances, tout à fait. Et puis, bon, puis ça riait. Alors, nous, entre nous, on riait, on faisait rire les autres. Ouais, on a pensé que bon, c'était deux belles années de bonheur. Alors donc, voilà.
Vous savez, parfois, il m'arrive de rêver que je suis un grand pianiste. Bon, je joue un petit peu de piano comme ça, mais la musique sans inspiration, c'est pas de la musique.
Il y a encore des trucs à dire.
La batterie, ça m'aurait plu. Ça.
Oui, à quel moment vous avez compris que Hubert De Gex, c'était pas comédien, mais musicien?
Il faisait la musique de la pièce. Tu vois, s'il nous a appris à chantonner un petit truc, pendant un moment, il fallait vous fredonner. Et bon, en plus de ça, j'ai compris qu'il était musicien parce qu'il jouait quand même du piano. Alors pour jouer du piano sur scène, entre nous, il est nul, niveau impôt. Mais au pire du pianiste, c'est très bien.
Quelle chanson vous pourriez citer? Quelle chanson composée par Hubert, arrangée par Hubert? Quelle chanson vous parle?
Il y a « Je n'irai plus jamais dans le quartier des Halles », qui est de Bernard. Non, le texte est de Bernard Dimet et la musique d'Hubert. Et ça, c'est une très belle chanson.
C'est vraiment... Le texte est superbe, parce que c'est une poésie très accessible.
Je n'irai plus jamais dans le quartier des Halles. Mes diables sont partis pour Dieu sait quel enfer. Les touristes ont marché sur les derniers pétales de nos derniers bouquets. On ne peut rien y faire. Je ne suis pas client pour les pèlerinages. Bien le bonjour chez vous, je ne reviendrai plus.
Anne-Marie Gros, vous êtes une danseuse de claquettes et vous êtes chorégraphe. Vous rencontrez Hubert De Gex en 84. C'est juste après la fin des Frères Jacques en 82. Vous le rencontrez dans le cadre d'un spectacle où vous dansez. Lui, il joue du piano.
Et effectivement, ça a été une étoile parce qu'il nous a marqué. On sentait qu'il avait en lui tout ce bagage si fort. Excusez-moi l'expression, mais si français, et en même temps, ce spectacle était un spectacle de comédie musicale, donc le répertoire était américain. Et ce qui était assez fabuleux, c'est un petit peu tout ce qu'on peut rêver d'un transmetteur, d'un passeur, c'est que la transmission se fait sans pédagogie. Il avait en lui aussi toute cette fantaisie qu'il avait bien entendu reçue de tout ce compagnonnage avec les frères Jacques. Pour nous, ça a été absolument un cadeau de recevoir ça. C'était de clavier à corps, si je puis dire, puisque nous, la danse à claquettes est extrêmement... C'est comme de la musique corporelle, en quelque sorte. Il a un rapport à la musique tellement organique qu'il était, en quelque sorte, presque un autre danseur. Voilà.
Alors, quelques temps plus tard, toujours avec Hubert, vous créez un spectacle, une comédie musicale, toujours à base de claquettes, un quartet à claquettes qui s'appelait Cher Daisy, et ça, vous le créez avec Hubert. J'ai quelques photos de Cher Daisy, cette comédie musicale, ce quartet à claquettes, des photos où, très clairement, on vous voit, vous, avec vos partenaires de scène, déguisés avec des chapeaux, des tuniques à rayures, des accessoires, comme dans Les Frères Jacques, finalement.
Je sentais qu'avec Hubert, nous pouvions jouer avec les codes de la comédie musicale, les codes de l'opérette, les codes de, des Frères Jacques, et de tout jouer avec les codes. Il n'y a rien de plus joyeux. Et là où je dois dire j'ai reçu le plus d'Hubert, et qui, bien entendu, vient là aussi de la chanson française et donc des Frères Jacques, c'est son accompagnement dans la prosodie des textes. La prosodie, c'est l'art de poser les mots sur une musique, indépendamment du nombre de pieds. Donc ça, c'est une chose pour laquelle je lui suis extrêmement reconnaissante.
Vous vouliez nous fredonner a cappella quelque chose, je crois.
Oui. Quand j'étais petit garçon, ma mère me dit, qu'est-ce que t'as donc ? Ma dada fait attention, le dadapti, le dadap-tap. Yap tap tip tip tadap ta, yididip tap ta, yididip tap. Bon, les paroles m'ont un peu échappé, mais sa musique est toujours là. Alors cet extrait, c'était amusant parce que c'était justement Hubert qui le chantait, où il disait quand il était petit garçon, sa maman lui disait bah, écoute, vas-y, fonce, vas-y, vas-y, joue, danse, etc. Je trouve que apparemment ça a œuvré.
On est toujours au 106, à la maison de la radio, et il y a Emiliane Charlotte qui nous a rejoint. Vous travaillez avec Hubert, Émilie. Vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans, et oui, je travaille avec Hubert depuis pas très longtemps. 6 mois, peut-être.
Et vous préparez un spectacle ?
Oui, un spectacle. Pour l'instant, déjà, on fait des chansons ensemble, et on espère que ça avancera après vers un spectacle, oui, tout à fait.
Je l'ai connue au théâtre des Deux Ânes, où elle est devenue depuis 3 ans la Benjamine, parce que c'est la plus jeune de la troupe. Et il se trouve que, en parlant, on a découvert qu'on aimait un petit peu les mêmes choses, les mêmes chansons, en fait. Ce qu'on appelle les standards américains.
Moi, j'adore les musiques comme des standards, donc américains, j'adore ça. Et lui, il les connaît plus que moi, forcément, donc il m'apporte, bah si.
Il y en a qui l'a fait découvrir.
Oui, mais bon.
Qu'est-ce que vous savez de l'époque de Hubert où il était avec son boys band, les Frères Jacques?
Oui, c'est vrai que c'était un peu un boys band à ta façon. Mais... alors, je connaissais la confiture que me chantait ma maman quand j'étais petite. Et bah, quand j'ai rencontré Hubert, après, j'ai cherché forcément les Frères Jacques sur Internet. Et bon, j'ai redécouvert des tubes comme La queue du chat, qui est très drôle, comme j'aime beaucoup. Et puis la photographie, forcément. Et c'est vraiment excellent. De toute façon, les Frères Jacques, c'est pas que de la musique, c'est aussi c'est un spectacle, c'est une chorégraphie, c'est de la précision, et moi c'est ce que j'aime aussi chez Hubert, c'est ce que j'aime. Alors laquelle on fait, Hubert?
Misty.
Ah, Misty, oui.
Commençons par Misty, ça oui, va nous, Misty, oui. Nous mettre dans l'ambiance.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging.
C'est pas grave.
Merci à Hubert de Gex, Pétula Clark, Philippe Metzger, Martial Carré, Florence Brunold, Henri Guibé, Jean-Luc Blaiseau, Anne-Marie Gros, Émilie Anne-Charlotte, Olivier Barraud. Hubert de Gex, le cinquième frère Jacques, un documentaire de Bruno Lorenzi et Vincent Deck. Sur les docks, attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard, coordination Irène Omelianenko.